Et c'est la seconde partie du LEM, la quotidienne du 100.4 FM de Transistor. Alors vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, la proposition de loi de finances 2025 présentée par le gouvernement annonçait une réduction de 35% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. Et sur les 12 millions d'euros d'économies demandées, 10,4 millions d'euros seraient entièrement supportés par les radios locales associatives, alors que ces dernières ne représentent que 4% de l'enveloppe budgétaire globale dédiée à la mission médias, livres et industries culturelles. Un vrai coup de tonnerre pour le SNRL, le syndicat des radios libres. Et évidemment pour l'ensemble des radios associatives. Et la réaction de la ministre de la Culture, Rachida Dati, ne s'est pas fait attendre.
Depuis 40 ans, le ministère de la Culture se tient à vos côtés, aux côtés des radios associatives, et ça n'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. Chaque année, elles sont près de 750 à bénéficier du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ce fonds, je vous le dis, c'est un instrument essentiel de notre politique culturelle des radios libres depuis 1982. Alors en découvrant la première version, c'est vrai, du projet de loi de finances, vous avez été nombreux à vous en émouvoir et vous émouvoir d'arbitrage budgétaire remettant en cause ce soutien. C'était essentiel pour moi de ne pas m'en satisfaire et de revenir à la charge sur ce sujet. Je me suis engagée auprès de vous pour trouver une solution. J'ai reçu vos représentants et vous avez été entendus. Nous avons été entendus. Car le gouvernement, à ma demande, va déposer en séance publique à l'Assemblée nationale un amendement pour rétablir ces crédits et je m'en réjouis. Alors comme beaucoup de nos concitoyens, je suis très attachée à nos radios locales, à nos radios associatives. D'abord parce qu'elles savent innover en s'engageant pleinement dans le développement du DAB+. Et je m'en réjouis également. Mais surtout parce que ces médias de première ligne jouent un rôle essentiel dans le lien social et la culture de proximité. Partout sur notre territoire national, en métropole et en outre-mer, en zone rurale, comme dans les quartiers dits politiques de la ville. Nos concitoyens y sont très attachés et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer une aide spécifique dans le cadre du plan Culture Ruralité que j'ai lancé en juillet dernier pour prendre en compte les difficultés particulières de ces radios et leur permettre de poursuivre et d'amplifier leurs actions au sein de ces territoires. C'est une mesure essentielle de mon plan Ruralité. J'y tiens beaucoup et d'ailleurs, la mise en œuvre a déjà commencé.
Bon alors ça c'est plutôt une bonne chose, hein, mais on attend quand même l'adoption de l'amendement. On imagine que tout ça c'est pas super clair pour vous. Alors justement Yann Simon, c'est le coordinateur de Transistor et avec moi en plateau pour nous expliquer comment ça marche tout ça. Salut Yann.
Salut David.
Bon alors on commence par le commencement. Le FSER c'est quoi? Ça vient d'où? Et quel est le rôle des radios associatives dans le paysage médiatique?
Alors je vais juste revenir sur la petite intrusion de Rachida Dati dans ton programme qui dit je me suis mobilisé. Oui c'est vrai, il faut reconnaître qu'elle a aidé. Sauf que effectivement tu as évoqué le SNRL, le Syndicat National des Radios Libres. Il y a deux grands syndicats en France qui défendent les intérêts des radios locales et associatives, c'est la CNRA et le SNRL, et l'ensemble des radios qui se sont mobilisées très très fortement auprès des parlementaires, et c'est ce mouvement aussi de forte mobilisation des parlementaires qui a fait que ça a beaucoup suivi aussi au niveau du ministère. Donc certes, il y a eu un effet de surprise apparemment au niveau du ministère, mais il y a eu un grand mouvement qui a permis aussi de revoir, on espère que ça sera voté, que ça va être intégré en tout cas au projet de loi de finances, de revoir justement l'enveloppe du FSER. Alors pour répondre à ta question, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, ça va être, j'ai essayé d'être rapide, c'est quelque chose qui a émergé suite à la libération des fréquences en 1981 et en 1986, donc 5 ans après, dans le cadre de la loi de 1986 relative à la liberté de communication, il y a eu, à l'époque, il y avait à peu près 2000 radios, grosso modo, et certaines ont resté ont souhaité rester à caractère associatif, local, médias de proximité. D'autres ont souhaité faire de la radio un outil, on va dire, de commercial, bon, pour vendre de la pub, en gros. Et donc, il y a eu une loi, le FSER, qui a permis aux radios locales de proximité d'avoir une subvention leur permettant de faire ce travail de proximité avec les associations, permettre à tout un chacun de faire de la radio, d'avoir un rôle média de l'éducation populaire. Voilà.
Et comment ça fonctionne alors tout ça? Comment une radio obtient cette subvention? Et en d'autres termes, qu'est-ce qu'on vend?
Alors, comment on obtient la subvention? En fait, il faut déjà être une radio de catégorie A. Donc, il y a plusieurs catégories dans le paysage audiovisuel français, paysage des radios. Et nous, radio à locale de proximité associative, on est en catégorie A. Donc, il faut d'abord être une radio de catégorie A, avoir une autorisation de fréquence délivrée par l'ARCOM, l'autorité de régulation. Et ensuite, c'est des effets de levier, c'est-à-dire que en fonction des nombres d'actions qu'on peut réaliser sur l'année, on a une subvention qui nous est attribuée.
Ça marche comment? C'est comme un permis à points, en gros. Plus tu as de points, plus tu gagnes.
Oui, c'est ça. Techniquement, il y a deux subventions. Il y a une subvention, ce qu'on appelle d'exploitation, c'est-à-dire en fonction de nos recettes, en fonction de notre budget, on nous attribue aussi une subvention. Et ensuite, en fonction du nombre d'actions, selon un cahier des charges qui a été défini par la mission, par la DGMIC, la Direction Générale des Médias de la Formation, la DGMIC, Direction Générale des Médias de l'Industrie Culturelle, pardon. Donc, il y a un cahier des charges et en fonction des actions qui rentrent ou non dans ce cahier des charges, on est crédité d'un certain nombre d'argent, de points et de subventions.
Oui, il y a des limites, j'imagine, en plus à tout ça. Est-ce que toutes les radios associatives fonctionnent pareil?
Alors, oui. Oui, elles ont chacune leur ligne éditoriale, leur identité forte. Ça, c'est ce qui caractérise le tissu des radios locales et associatives. Mais elles fonctionnent, oui, en tout cas, elles émargent toutes au FSER. En tout cas, j'imagine, j'espère pour elles. En tout cas, oui.
Alors, ça représente quoi le FSER en termes de chiffre d'affaires dans une radio associative telle que Transistor?
Oui.
Mais avant de répondre, est-ce que tu peux préciser peut-être, est-ce que vu l'ensemble des autres radios associatives, est-ce que Transistor est plutôt une grosse radio, une moyenne ou une petite radio?
Non, on est parmi... Alors, oui, alors ça dépend. Ça dépend d'où on regarde. Si on regarde en termes d'emploi et du nombre de bénévoles, enfin d'emploi d'abord, on est une radio qui se situe plutôt dans la fourchette haute. On a 4 équivalents temps plein à la radio. Donc on est plutôt au-dessus de la moyenne du nombre d'emplois des radios, en tout cas à l'échelle bretonne et en tout cas à l'échelle nationale. Ensuite, ça dépend d'où on regarde. Si on regarde d'un point de vue couverture territoriale, on est plutôt dans la fourchette très basse, puisque en fait on a une petite fréquence qui nous permet malgré tout de couvrir une zone qui s'étend du sud de Brest au nord de Quimper, pour faire court, et de la presqu'île de Crozon qu'on couvre à peine jusqu'à Carré quand les nuages sont bas. De ce point de vue-là, on est en termes de couverture territoriale, on n'est pas très bien loti. Ouais.
Ouais. Alors, du coup, ça représente quoi le FSER termes de pourcentage, on va dire? Tiens.
En règle générale, de toute façon, pour les radios locales et associatives, le FSER représente peu ou prou la moitié de son budget de fonctionnement.
Ouais, c'est une règle générale, ça?
Non, c'est pas une règle générale, c'est plutôt quelque chose qui s'est, si on établit une moyenne des radios qui fonctionnent plutôt à plein régime, c'est plutôt un peu en dessous de la moyenne. Et nous, à Radio à Transistor, on est dans cette moyenne. Le FSER représente un peu moins de nos besoins en ressources financières.
Un petit peu moins, d'accord. Alors ouais. Du coup, de quoi se compose le reste du chiffre d'affaires? Et est-ce que, par exemple, la pub fait partie de l'équation?
Alors, bonne question. Alors, je vais répondre d'abord à la dernière question. Alors, il faut savoir que les radios A, les radios associatives, peuvent faire de la publicité dans la limite de 20% de leur recette générale. C'est-à-dire qu'on a un budget de 100 000 euros, on ne peut pas faire plus de 20 000 euros de recettes publicitaires.
Alors, quand tu dis peuvent, ça veut dire que, par exemple, les radios B, les radios commerciales, sont dans l'obligation, elles doivent faire de la pub.
Alors, les radios B, non, sinon, elles ne vivent pas. Les radios B n'ont pas ce qu'on appelle les radios B. Alors, près de chez vous, une radio commerciale, ça peut être RMN, Radio Montagne Noire, Paris. Sont des radios de communication de proximité comme la nôtre, sauf qu'en fait elles n'émargent pas au FSER et elles ont plus de fréquences pour avoir plus de moyens justement de faire des recettes publicitaires. Donc plus de fréquences, dit territoire plus grand, dit plus de chalandise en fait pour la radio. La loi de 1986 autorise donc les radios locales de proximité à faire de la publicité. Alors il se trouve qu'à Transistor, nous on ne fait pas de publicité. Pourquoi? Parce que en fait c'est pas simple. Déjà on n'a pas une zone de diffusion intéressante pour les annonceurs. Voilà. Ensuite, voilà, c'est pas dans le modèle économique prévu, et de toute façon, on paierait un commercial pour faire de la pub qui, voilà, donc c'est pas rentable pour nous, c'est pas intéressant vu notre couverture territoriale.
Ouais. Alors du coup,
qu'est-ce qu'on fait ? En fait, le FSER, ce que permet le FSER, c'est aussi c'est un effet levier, c'est-à-dire ça nous permet aussi de salarier des personnes qui interviennent dans des établissements scolaires. C'est-à-dire que une grosse partie de l'activité de Transistor, c'est de faire de ce qu'on appelle de l'éducation aux médias, c'est intervenir auprès des jeunes, auprès d'un public en milieu scolaire ou non. Et de faire des ateliers radio, puisque nous, à Transistor, on est convaincus que la radio est un formidable outil d'émancipation individuelle pour apprendre à parler, à s'exprimer, pour apprendre, bien sûr, les rudiments de l'information. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial à notre époque de distinguer la vraie information de la fausse information. On a deux salariés à Transistor qui s'en occupent très bien.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de...
Alors oui, les sources de financement, on intervient aussi en tant que pour animer des tables rondes, des débats. On fait aussi, on travaille étroitement avec le réseau des radios locales et associatives de Bretagne, la Corlab, qui permet aussi d'avoir des programmes de reportage financés de la création de contenu qui se retrouvent diffusés sur le média associatif régional dont Transistor fait partie, BOA.
Donc là, on est plus sur un système type devis, facture, comme n'importe quelle entreprise.
Exactement.
C'est exactement ça, d'accord. Alors, dans les défis financiers, Madame Dati parlait de l'engagement dans l'innovation des radios associatives dans le DAB+. On reviendra certainement là-dessus dans une autre chronique. Parce que Transistor va s'installer à Quimper pour justement émettre en DAB+. Comment on évalue correctement la pertinence de cette installation dans un tel contexte ?
Ah, oula. Oui, on pourrait... alors là, ça devient un peu technique, c'est-à-dire que, soyons techniques, c'est-à-dire que Transistor, son projet est d'ouvrir un nouveau studio à Quimper, donc c'est bien la même association. Alors voilà, je rappelle quand même que Transistor, c'est piloté par une association, une association, loi 1901, une association de l'économie sociale et solidaire. J'en profite pour rappeler que, pareil, le projet de loi de finances qui est actuellement à l'étude au Parlement malmène toutes ces associations, et notamment l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir que l'économie sociale et solidaire, ça représente quand même quelques 164 000 emplois salariés en Bretagne, c'est pas rien, et que si ce plan de finances était voté, on peut imaginer que 12 000 emplois seraient perdus à la clé, notamment en Bretagne. Donc je rappelle qu'en fait, Transistor, c'est bien une radio du monde de l'économie sociale et solidaire. C'est une association, et cette association pilote donc Transistor, qui se déploie à Quimper. Alors, ça va pas être deux Transistor à Quimper, c'est une extension, c'est-à-dire que on va déployer ce qu'on appelle en jargon ARCOM une annexe 3, c'est-à-dire que depuis Quimper, on créera 4 heures de programme propre par jour qui seront à la fois qui seront écoutables depuis Quimper et depuis Quimper, en dehors de ces heures de programme POM, bien ça sera la maison, le bateau mère, on va dire, du fou qu'on écoutera. Alors, dans un tel contexte, ce qui se passe, c'est que si on ouvre une annexe 3, on peut avoir un autre FSER. Donc ça veut dire que c'est un effet levier qui va nous permettre aussi de développer une économie particulière sur la zone de Quimper. Et ce qui est intéressant pour nous à Quimper aussi, puisqu'on y est déjà, on crée des ateliers radio, on a énormément de partenariats déjà sur Quimper.
Des bénévoles,
ça va nous permettre aussi on espère pouvoir créer plus d'activités et donc quelque part une certaine rentabilité aussi de notre implantation à Quimper.
On espère embaucher aussi peut-être ?
Alors, à Transistor, on a tout le temps cet esprit d'entreprise aussi, de développer le média. Donc bien sûr, l'idée, c'est d'accueillir des bénévoles, et puis pour que ce travail de bénévole se fasse au mieux, généralement, c'est ce qu'on a tout le temps entrepris, en tout cas au fou, c'est de l'encadrer par un salariat qui permet d'avoir une qualité professionnelle dans vos oreilles.
D'accord. Bon, on parlait un petit peu de la pub tout à l'heure. Bientôt, sur Transistor, vous allez entendre un spot, mais c'est pas forcément ce que vous croyez.
Attention, attention, ouverture d'une boucherie canine dans votre coin. C'est tout nouveau, bientôt chez vous, l'ouverture d'une boucherie pour les gens qui aiment les chiens.
Mais c'est bon, c'est très goûtu.
Caniche, labrador, teckel, chachila, de la viande fraîche selon Alibaba. Attention, l'abus de chien est dangereux pour la santé.
Vous écoutez Transistor, et sur Transistor, il n'y a pas de pub. Pas de coupure commerciale en pleine émission, pas de voix criarde qui vous annonce les prochaines soldes. À Transistor, on préfère vous faire découvrir ou redécouvrir de magnifiques chansons, vous emmener à la rencontre des acteurs et des actrices du territoire, vous proposer des lieux d'échange et d'information. Mais pour cela, il faut des financements. Alors si vous voulez nous soutenir dans ce travail, soutenir votre radio locale et associative, on vous donne rendez-vous sur Hello Asso ou sur notre site internet.
Donc voilà, donc là on vient d'entendre un petit spot sympathique fait par Pierre-Yves et puis par Jeanne, qui sont donc évidemment éducateurs aux médias ici à Transistor.
Alors... Et animateur pour Pierre-Yves, puisqu'il anime, il est à ta place le mercredi.
Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Transistor fait une campagne de dons et pourquoi on permet ça ?
Alors déjà, tout d'abord, effectivement, tu l'as salué, le travail de ces deux animatrices de la radio, puisque c'est aussi une patte particulière, on a pu l'entendre ici, c'est la patte particulière de Transistor qui est d'être tout le temps un peu décalé dans cette campagne de dons qu'on va matraquer un peu dans vos oreilles jusqu'en décembre. Et donc, c'est l'esprit de Transistor et je suis très fier de cet esprit et je salue le travail de tous et particulièrement des trois, puisque en fait Camille aussi a participé, qui ont un service civique, a participé aussi à cette création. Alors, pourquoi une campagne de dons ? Alors, pourquoi une campagne de dons ? Alors là, je vais essayer de répondre très concise, je ne sais pas faire. Campagne de dons, puisque en fait, l'enjeu des associations aujourd'hui, c'est de pallier un déficit de financement public, et ça c'est global au milieu associatif, c'est-à-dire que oui, on a des subventions, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des charges augmentent pour tout le monde, pour les ménages, pour les entreprises. Et à Transistor, on n'y échappe pas. Les charges ont doublé, ont augmenté considérablement. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que la finance publique, elle, stagne, voire diminue. Donc, on se retrouve avec une équation difficile à gérer. On sait très bien que la radio, faire de l'information, ça se paye pas, en fait. Et donc, on lance cette année, on fait un appel à dons. Alors, c'est quelque chose qui était possible depuis des années sur le site de la radio, mais là, on a besoin des soutiens de nos auditeurs. Besoin des soutiens d'une communauté, de territoire aussi, puisque en fait, c'est un service de proximité, c'est un service territorial que Transistor effectue au quotidien. Et donc, cette campagne de dons, c'est pour permettre aussi de pouvoir travailler au mieux dans les meilleures conditions.
Et donc, si vous avez envie de nous faire un don, eh bien, rendez-vous sur le site de la radio à transistor.bzh ou alors sur le site de Hello Asso. Merci Yann.